Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour ce moment. Nous pouvons ouvrir ta parole et la lire et la méditer afin de nous construire, afin d'être tel que tu veux que nous soyons le jour où tu reviendras. Merci Jésus. Amen. Alors vous avez tous vu ce qui s'est passé aujourd'hui au Japon. Il faudra qu'il arrive quoi encore pour que le monde se rende compte que les signes sont là, que le quatrième sceau a été brisé dans le ciel, que les démons sont lâchés, que la nature est sans dessus dessous. Non. Ils sont encore là en train de faire l'amour et de dire oh non, il y a toujours eu des tremblements de terre. Ceux qui se souillent encore, la Bible dit. Amen. Que voulez-vous ? Ce soir, depuis le début de l'année, on a consacré dans la communauté un mot pour chaque mois. Alors j'ai prêché sur ce mot, choisi, et ensuite les parents ont étudié ce mot avec leurs enfants. Alors, qui peut me dire quel était le mot du mois de janvier ? Respect. Quel était le mot du mois de février? Loyauté. Merci. Et ce mois de mars, vous savez tous que c'est le mot amour. Et ce soir, je vais donc vous donner de quoi méditer. Je pense que vous avez tous la possibilité d'aller sur Internet et de prendre et de noter. Je vais vous donner beaucoup de textes. Vous allez pouvoir réfléchir avec ça et comprendre des choses importantes au sujet de l'amour. Je vais vous donner de quoi méditer pour que vous puissiez développer l'amour selon Dieu, parce que vous allez voir qu'il y a plusieurs mots, non, dit amour, mais il y a plusieurs mots dans la parole de Dieu pour développer cela. Il y a plusieurs mots pour le mot amour. Le premier mot qu'on trouve, excusez-moi la prononciation, mais c'est hab, qui s'emploie pour désigner par exemple la nourriture. Rappelez de Isaac, qui était vieux, puis qui a demandé à sa femme de lui préparer un plat, quelque chose qu'il aime. Alors voilà, donc sa femme est allée le faire. Il y a eu toute l'histoire après du plat de lentilles, tout ça. C'était Genèse, chapitre 27, 4. Vous avez aussi... Non, il est bien sur les genoux, j'aime bien mon petit chéri. C'est mon petit fils sur les genoux, pour ceux qui écoutent Internet. Si vous avez aimé la sagesse, dans Proverbe 4, 6... Aimer le sommeil. Là, plutôt, il nous a dit qu'il ne faut pas trop aimer le sommeil parce que sinon, on va devenir pauvre. Ensuite, l'agriculture. Vous avez le roi Oséas qui aimait l'agriculture dans 2 Chroniques 26, 10 et qui développait cela. Aimer les biens. Vous avez trouvé. Aimer le bien, pardon. Vous avez trouvé ça dans Amos 5, 15. Il y a un autre mot qui est employé. Il est employé 30 fois. Celui-là, ça ressemble un peu. C'est Abba. Il est surtout employé pour désigner l'amour humain. De temps en temps aussi l'amour pour Dieu ou l'amour de Dieu, mais c'est surtout l'amour humain. On trouve ça dans Ésaïe 63, 9, ce mot il est comme ça, c'est pas le mot amour que nous avons dans nos Bibles, mais c'est l'autre, c'est ce mot-là, Abba. Dans Jérémie 31, 3, où Dieu dit « Je t'aime d'un amour éternel, c'est pourquoi je te conserve ma bonté ». Dans Sophonie 3.17 aussi. Et puis il y a un autre mot, c'est le mot Ezed. Il est souvent traduit dans nos Bibles par miséricorde. Miséricorde, la miséricorde, l'amour de Dieu. Ezed, c'est l'amour qui est constant. C'est la bienveillance divine. Mais c'est dans le cadre de l'alliance entre Dieu et Israël, entre Dieu et son peuple. Un autre mot, c'est le mot Do, qui se rapporte, lui, au désir sexuel. On trouve ça dans le Cantique des Cantiques 1, verset 13, verset 14, verset 16. Et c'est le seul mot qui n'est jamais employé en ce qui concerne l'amour pour Dieu ou l'amour de Dieu. Il faut savoir que la Bible, elle ne parle pas que du côté affectif ou des penchants ou des sentiments quand elle parle de l'amour. Mais elle parle aussi du côté juridique et du côté engagement. Vous avez des gens qui s'aiment avec des sentiments, ils s'engagent, puis après ils cassent l'engagement. Là, ça, c'est plus, c'est pas comme ça que Dieu voit l'amour. Dans l'Ancien Testament, au premier plan, il y a l'amour de Dieu pour nous, les êtres humains. Et puis, on le voit choisir Israël par amour. Vous trouvez ça dans Deutéronome 7, 6, 8. Dieu choisit par amour. Dieu intervient pour Israël par amour. Deutéronome 4, 3, 7. Jérémie 31, 3. Dieu sauve, Dieu pardonne les péchés par amour. Deutéronome 23, 6. Il est comme un père qui est aimant. Deutéronome 8, 5. Mais alors, du début à la fin de l'Ancien Testament, Dieu déclare « Je vous aime » jusqu'au dernier prophète, dans Malachie 1, 2, c'est « Je vous aime, je vous aime, je vous aime ». Mais on découvre déjà dans l'Ancien Testament que aimer Dieu, c'est lié à garder ses commandements. Ce n'est pas simplement avoir un sentiment, un désir d'aller le louer, « Alléluia, je t'aime, de l'amour du Seigneur ». Non, Exode 20, 6, « Aimer, c'est garder ses commandements ». Deutéronome 7, 9, « Aimer, c'est garder ses commandements ». Aimer Dieu, ça revient à servir Dieu. Deutéronome 10, 12, Deutéronome 11, 13. Si on aime, on le sert. Si on l'aime, on lui obéit. Quand on aime Dieu, on marche selon ses voies, on fait pas ce qu'on veut. Deutéronome 11, 22. Quand on aime Dieu, on hait le mal. Vous qui aimez l'Éternel, haïssez le mal. Parce que l'Éternel garde l'âme fidèle et les délivre de la main des méchants. Psaume 97, 10. Vous voyez, c'est un amour, mais pas comme on pourrait penser, simplement sentimental. « Je t'aime, alors je ferai n'importe quoi pour toi. » Non. Donc l'amour qu'on a pour Dieu, il implique donc l'obéissance, le respect, la fidélité, donc la loyauté, hein, si vous voulez. Hein. Israël avait été choisi pour être devant tous les peuples comme un témoignage de l'amour de Dieu. Vous trouvez ça dans Genèse 12, 3, Ésaïe 42, 6. Alors, celui qui expérimente cet amour de Dieu, cet amour qui lui donne la paix, cet amour qui le protège, cet amour qui lui fait du bien, eh bien, il éprouve le besoin de témoigner de l'amour à son prochain. Et c'est pourquoi Dieu dit, par exemple, dans Lévitique 19, 18, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Ce n'est pas Jésus qui l'a inventé, c'est déjà dans Lévitique. Quand on aime Dieu, on aime son prochain. Ça c'est lié. L'Ancien Testament parle de différentes formes d'amour réciproque, comme par exemple l'amour entre un homme et une femme, dans Genèse 29, 26. L'amour entre un homme et une femme, ça représente, c'est l'illustration de l'amour de Dieu pour son peuple, d'abord pour Israël en premier, et puis ensuite pour son Église. Deuxièmement, la Bible nous parle de l'amitié entre hommes. On trouve ça dans 1 Samuel 18, 3, 2 Samuel 1, 26, c'est l'histoire de David et Jonathan. Ensuite, on trouve troisièmement l'amour paternel et maternel, qui sait agir avec sévérité. C'est pas un amour, celui qui ne corrige pas son enfant, eh bien, il le pousse en enfer. Il faut corriger les enfants. Et Proverbe 13, 24, Hébreux 12, 5, 11. Alors maintenant, on a des lois qui nous disent qu'il ne faut pas donner des gifles aux enfants. Bon, on ne dira rien, hein? Mais que voulez-vous? Après, on a une bande de voyous qui ne savent pas ce que c'est que la correction. Moi, je ne suis pas tellement pour cette façon de faire. Moi, je n'ai pas été élevé comme ça. Et quand je vois les gens de ma génération comment ils sont, et quand je vois les gens de la génération montante comment ils sont, eh bien, ça me fait trembler pour l'avenir. Un père normal, une mère normale, il corrige son enfant. Vous direz, il y a mille moyens de le corriger, il n'y a pas besoin de le frapper. D'accord, montrez-moi comment vous faites. C'est très bien, c'est bien, c'est bien, gloire à Dieu. Quatrièmement, si vous avez raison, hein, la Bible a certainement tort, c'est vous qui avez raison. Quatrièmement, l'amour du prochain, qui concerne d'abord nos compatriotes. Ça veut dire là, parce que c'était pour Israël. Hein, vous trouvez ça dans Lévitique 19, 18, Deutéronome 22, 1, 4. Mais maintenant, c'est pour l'Église. C'est-à-dire que notre amour, c'est d'abord pour ceux de la maison de Dieu, pour ceux de la famille de Dieu, pour les enfants de Dieu. Ensuite, cet amour, il doit s'étendre aux étrangers, c'est-à-dire à ceux qui ne sont pas des chrétiens, à ceux qui ne sont pas des enfants de Dieu. Lévitique 19, 34. Et puis, il doit s'étendre même aussi à nos ennemis. Exode 23, 4, Proverbe 25, 21. En fait, Lévitique 19, 18, dont on parlait tout à l'heure, il résume les différents commandements qui expliquent ce qu'implique l'amour. Dans le Nouveau Testament, il n'y a pas tant de nuances. Il y en a deux. Il y a deux mots pour le mot amour. Il y a philia, philéo, et agapé. Alors, le mot eros, c'est aussi un mot qui signifie l'amour. Maintenant, les gens disent qu'ils font l'amour. Ben c'est le mot eros. Mais là, le mot eros dans la Bible, cet aspect passionnel, c'est pas employé dans le Nouveau Testament. Philia, philéo, ça signifie amitié très forte. Une amitié qui s'exprime par des gestes d'affection, comme par exemple la femme qui oignait les pieds de Jésus, c'était de l'amour philéo. C'est le mot qui est employé, hein. Luc 7, 38. Ou alors, quand Jésus nous parle de son fils prodigue qui revient, il le voit de loin, il court, et puis il l'embrasse, et tout ça, c'est aussi le mot philéo qui est employé. Luc 15, 20. Philéo, tout ça, c'est un mot qui est employé pour parler de l'amour entre les parents et les enfants. Et c'est dans Jean 5, 20. Dans Jean 21, 15 à 17, Jésus oppose agapao avec philéo. Il demande à Pierre, vous vous rappelez, Pierre a renié Jésus, il se retrouve là, Jésus est ressuscité, il se retrouve au bord de l'eau, et Jésus demande à Pierre, « Pierre, m'aimes-tu ?» Et il emploie le mot agapao. Et Pierre répond, « Je t'aime, mais le mot philéo. » C'est-à-dire, « J'ai de l'amitié pour toi. » Il n'ose pas employer le mot agapao parce que c'est trop fort. Il vient de renier son maître, il ne peut pas dire je t'aime d'amour, d'un amour divin. Et la troisième fois, Jésus lui repose la question, mais il lui dit, Pierre, m'aimes-tu? Mais en employant là le mot philéo, il dit, Pierre, tu m'aimes bien, t'es mon ami? Et alors là, la Bible nous dit que Pierre est attristé. Il est attristé parce que cette troisième fois, il lui a demandé, est-ce que t'es mon ami? Il ne lui demande pas, est-ce que tu m'aimes? Il lui demande, est-ce que t'es mon ami? Agapao, c'est l'amour divin. Et philéo, ben, c'est l'amour humain. Et on sait ce que ça vaut, l'amour humain. Quand Jésus dit, t'es mon ami, il sait très bien qu'un ami, ça trahit. Un ami, ça peut tromper. Un ami, c'est peut-être pas pour toute ta vie. Alors que Dieu, quand il donne son amour, c'est un choix qu'il a fait. Et il se tient à son choix. Et il ne bouge pas malgré tout. Vous voyez, mes frères et sœurs, l'amour agapao dépend plus de la volonté que du sentiment. L'amour de Dieu dépend plus de sa volonté que de ses sentiments. L'amour agapao, c'est l'amour de Dieu pour nous. Dieu a tant aimé le monde, c'est agapao. Il a choisi. Romains 5, 8, on peut lire Romains 5, 8 si vous voulez. Romains 5, 8, c'est là que ça commence à devenir un peu plus intéressant. Et voici comment Dieu prouve son agapao, son amour envers nous, alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Il a choisi. Il a choisi. Dieu, maintenant, il veut que nous aimions agapao. Il ne veut pas qu'on aime seulement philéo. Le monde peut aimer philéo. Ah, oh, je t'adore, t'es mon ami, nanini, nalère. Il veut que nous aimions les uns les autres, agapao. On trouve ça dans Matthieu 22, 39, par exemple. C'est ce mot qui est employé. Matthieu 22, 39. Il dit, et voici le deuxième commandement qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et là, c'est le mot agapao que Jésus emploie. Donc, il veut que nous choisissions d'aimer et que nous persévérions dans cet amour, que tout le monde sache, voilà, tu peux compter là-dessus, quoi qu'il arrive, tu peux compter sur mon amour. Et même nos ennemis, amour agapao, un amour volontaire, plus que sentimental, parce qu'on n'a pas vraiment des sentiments pour ceux qui sont nos ennemis, mais on doit les aimer, c'est un amour volontaire. Et on trouve ça dans Matthieu 5, 44. Par exemple, quand Jésus dit que les pharisiens, ils aimaient les honneurs et la gloire des hommes plus que les honneurs et la gloire de Dieu, eh bien Jésus emploie le mot agapao, parce qu'ils avaient un tel amour pour les gloires humaines et les honneurs que c'était un amour qui était une perversion. Quand Paul nous dit qu'il a que Démas a abandonné, Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent, il emploie aussi le mot agapao. C'est-à-dire il a choisi d'aimer le monde, il a choisi le siècle présent, il a choisi la facilité et non pas les contraintes des lois de Dieu qui obligent à... Vous comprenez? Ainsi, quand Jésus nous dit de ne pas aimer le monde ni ce qui est dans le monde, il emploie le mot agapao. C'est-à-dire, il nous dit, choisissez de m'aimer moi et non pas le monde. Ça ne veut pas dire que nous ne pouvons pas aimer le monde. Philéo, vous voyez ce que je veux dire? Ben, on aime bien les frites, on aime bien, voilà, moi j'aime bien, j'ai des copains païens, voilà. Un jour, une brave chrétienne m'a dit, ah, mais alors vous êtes double, vous êtes Mr. Hyde et comment il s'appelle l'autre? Dr. Jekyll et Mr. Hyde, parce que vous avez des amis païens, etc., etc., puis vous avez un autre langage avec eux. Mais évidemment, je ne vais pas parler sanctification avec mes amis païens, je les attire, je me fais faible avec les faibles, etc., et c'est par amour, c'est un amour, une affection pour ces gens-là, et c'est philéo, c'est pas interdit. C'est l'amour que j'ai, c'est la même. Mais l'amour agapao, c'est autre chose. L'amour agapao, c'est autre chose. Jésus nous dit de ne pas aimer l'argent, nous dit de ne pas agapao, nous dit de ne pas choisir d'aimer l'argent, mais plutôt de l'aimer lui. C'est la même chose avec mes amis philéo. Je les aime bien, mais je choisis. C'est pas eux que je les suis, c'est pas eux qui vont me mener, c'est pas eux qui... Vous comprenez, mes frères et sœurs? C'est très important de comprendre ça, parce que sinon, on ne sait pas aimer. Courir, mourir, voler. C'est des chansons, tout ça. Jean, il dit que le monde aime les ténèbres plus que la lumière. Et il emploie le mot agapao, c'est-à-dire il a un amour divin pour les ténèbres. C'est-à-dire il a choisi. L'amour divin, c'est un amour choisi. Il n'y a pas forcément un sentiment dedans. Ça peut venir, le sentiment, mais c'est un amour choisi. On dit toujours que Dieu est amour, et quand il est écrit que Dieu est amour, c'est le mot agapao, c'est-à-dire qu'il a choisi volontairement, il nous a choisi volontairement. On trouve ça dans 1 Jean 4, 8, verset 16, aussi 1 Jean 4, verset 8, verset 16. Il nous a choisi, il nous a prédestiné. Ça signifie que à l'origine de son amour, il y a la volonté de nous sauver. On trouve ça dans 1 Timothée 4, 2. Il veut nous sauver. Et Dieu prouve son amour en mourant sur la croix volontairement. C'est volontairement qu'il a donné sa vie par amour pour nous. Amour agapao. Il nous a tellement aimé, il a donné sa vie. C'est par amour, mais un amour agapao. C'est un amour réfléchi, volontaire, je dirais même calculateur. Ce qu'il fallait quand même. Hein, quand on veut faire quelque chose, il vaut mieux calculer le prix. Il a calculé le prix qu'il a dû payer pour pouvoir nous sauver. Alors, celui qui aime Dieu, agapao, il veut obéir, il veut servir. On trouve ça dans Matthieu 22, 37. Jésus répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Alors, maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est un commandement et on veut le faire. Et quand on aime, c'est pour obéir et c'est pour servir. C'est clair. C'est clair. 1 Jean 4, 20. Lisons ça. 1 Jean 4, 20. Si quelqu'un dit j'aime Dieu alors qu'il déteste son frère, c'est un menteur. En effet, si quelqu'un n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Or, voici le commandement que nous avons reçu de lui. Celui qui aime Dieu doit aussi aimer son frère. 1 Jean 5, 3. En effet, l'amour envers Dieu consiste à respecter ses commandements. Or, ses commandements ne représente pas un fardeau. Puisque tout ce qui est né de Dieu remporte la victoire contre le monde, et la victoire qui a triomphé du monde, c'est votre foi. Maintenant, il nous reste une chose à faire, c'est de demeurer dans cet amour, dans cet agapao, dans cet amour choisi, dans cet amour voulu. Alors on lit Jean 15, 9, 10. Là on trouve « Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et je demeure dans son amour. » Vous ne gardez pas son commandement, vous ne demeurez pas dans son amour. C'est clair. C'est clair. Vous pouvez vous illusionner, tout ce que vous voulez, mais Jésus est très clair. Une personne qui aime Dieu agapao, il devient capable d'aimer agapao les gens, parce que Dieu le lui donne, ce pouvoir. Et son amour agapao, ça va être le critère de sa relation qu'il a avec Dieu. On peut lire 1 Jean 3:10. Dans 1 Jean 3:10, il est dit: c'est à cela qu'on reconnaît les enfants de Dieu et les enfants du diable. Celui qui ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, tout comme celui qui n'aime pas son frère. C'est le critère. 1 Jean 4:20. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » alors qu'il déteste son frère, c'est un menteur. En effet, si quelqu'un n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Or, voici le commandement que nous avons reçu de lui. Celui qui aime Dieu doit aussi aimer son frère. 1 Jean 4, 21, oui, on vient de le lire parce qu'on a lu les deux à la suite. C'est ça, la foi. C'est croire ce que la parole de Dieu dit. Et la vraie foi, la foi que Dieu trouve acceptable, c'est la foi qui est agissante par l'amour agapao. C'est dans Galates 5, 6. Nous est dit que la foi qui est acceptable, c'est la foi qui est agissante par l'amour agapao, et non pas l'amour philéo. C'est pas parce qu'on aime bien les gens qu'on va les évangéliser. C'est pas parce qu'on aime bien les malades qu'on va prier pour eux. Bien sûr qu'on doit les aimer, si on les déteste, c'est affreux, c'est pas possible. C'est pas, vous comprenez bien. Mais c'est pas possible d'aimer tout le temps philéo. L'amour philéo n'est pas assez fort. Il faut que ça soit un amour volontaire, un amour décidé et qui ne changera pas. L'amour agapao, c'est ce que la Bible appelle le lien de la perfection. Colossiens 3,14. Pas l'amour philéo, pas l'amour héros, l'amour agapao. Nous allons donc à persévérer dans cet amour choisi et volontaire. On trouve ça dans Hébreux 13, 11. Hébreux 13, 11. Et je vous ai dit qu'il y aurait beaucoup de versets, hein, mais vous aurez donc à discuter après en famille. Hébreux 13, 11. En ce qui concerne les amis... Ah, ça ne doit pas être ça. Non, excusez-moi, c'est Hébreux 13, 1. Persévérez dans l'amour fraternel. Voilà, persévérez dans l'amour fraternel. Persévérez. Si c'est seulement philéo, on n'y arrive pas. On n'y arrive pas. Alors maintenant, certains disent, on le lit souvent, que l'homme y grandit du bas vers le haut. C'est très joli, mais moi je trouve que c'est plutôt vrai de dire que l'homme grandit de l'intérieur vers l'extérieur. L'amour, c'est la seule chose qui demeurera. Et l'amour, c'est quelque chose qu'on a dedans et qui s'exprime. Qui doit s'exprimer d'une façon volontaire, dans un service, dans le respect, dans la loyauté. Sinon, ça n'est pas acceptable. C'est du blablabla, c'est du sentiment. C'est des trucs qui font que vous avez les cloches qui sonnent, la mariée en blanc et un mariage sur deux, ça tombe par un divorce. C'est ça l'amour dont on nous parle dans le monde et dans les chansons. Et bien, ce n'est pas de celui-là dont Jésus parle. L'amour, ce n'est pas comme une cigarette. Hein? L'amour, c'est comme une cigarette, ça pique les yeux, ça fait pleurer. Ça, c'est de la poésie à quatre sous. Mais la parole de Dieu est la vérité. Amen. Et l'amour que Dieu attend de nous, c'est un amour agapao. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci Jésus de nous aider à comprendre ces choses, pour que nous puissions les vivre mieux, parce que quand on comprend bien les choses, on peut mieux les vivre. Merci Jésus pour cela. Merci mon Dieu. Je veux te prier aussi pour tous nos frères et sœurs qui sont là-bas au Japon et qui sont dans la terreur ou qui sont dans le deuil ou qui sont blessés ou que sais-je. Je veux te demander de les bénir, de leur montrer un signe qui vient de toi comme quoi ce n'est pas, tu ne les as pas abandonnés, que tu les soutiens. Je te prie pour ceux qui veulent crier à toi, qui te cherchent. Je te demande, mon Dieu, de te révéler à eux et que ta parole qui avait été semée dans les cœurs, eh bien, puisse être maintenant en train de germer. Je sais que malheureusement, l'homme se tourne vers toi très souvent dans des moments difficiles. Mais Seigneur Jésus, je te prie que là-bas, eh bien, pendant ce moment difficile, eh bien, terrible, des âmes se tournent vers toi. Merci Seigneur Jésus. Je te prie aussi pour le Burkina Faso qui est en train de vivre des heures terribles. Je te demande, mon Dieu, de protéger tous tes enfants, de leur rappeler tout ce que je leur ai enseigné au sujet du quatrième sceau, de ces choses qui sont à la porte. Je leur disais, c'est à la porte et maintenant, ça y est. Je te prie, Seigneur, de leur rappeler ce qu'ils ont entendu afin qu'ils sachent comment se comporter sous ce quatrième sceau. Que ton nom soit béni, Père, au nom de Jésus. Amen.